Quelle est notre pratique de la prière de confession? C'est ce que nous nous proposons d'aborder aujourd'hui. Puisque nos amis juifs fêtent le Yom Kippour, mardi et mercredi prochain, nous commencerons par évoquer cette fête pour ensuite nous entretenir sur l'importance de la confession, préalable au pardon. Nous sommes ensemble durant 25 minutes pour en parler dans l'émission Parole protestante.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Pour en parler, nous accueillons cet après-midi Daniel et Bernard Delépine, ainsi que Jean-Didier Rousseau. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour rappel, Jean-Didier, vous êtes responsable d'un groupe de prière. Sauf erreur, vous vous rencontrez dans une famille habitant Chemeillé qui vous accueille dans sa maison le mercredi soir.
Oui, oui, tout à fait.
Daniel, vous êtes membre d'une maison de prière à Angers et de l'équipe de louanges de l'église protestante baptiste.
Oui.
Bernard, vous êtes pasteur de l'église protestante baptiste située rue du Colombier à Angers. Vous êtes aussi aumônier protestant au CHU et au Sésame.
C'est bien ça.
Cette semaine, nos amis juifs vont fêter Yom Kippour, la fête du grand pardon. C'est le jour le plus important de l'année pour eux, le Shabbat par excellence. Mais qu'est-ce que cette fête exactement? Qui veut répondre? Daniel?
Je veux bien vous répondre brièvement sur l'origine de cette fête. Dans le tabernacle de Moïse, puis quand il y avait le temple à Jérusalem, le grand prêtre était autorisé uniquement le jour de Kippour à pénétrer dans le lieu très saint où se trouvait l'arche de l'Alliance pour faire l'expiation des péchés du peuple. Le peuple, lui, était dehors sur le parvis et attendait. Dans cette cérémonie du Kippour, on prenait deux boucs. On sacrifiait l'un dont le sang était employé à l'expiation. C'est le mot biblique pour dire que les péchés sont couverts par le sang du bouc. De ce fait, Dieu ne les a plus sous ses yeux. Si le grand prêtre ressortait vivant du lieu très saint, cela signifiait que l'Éternel avait accepté le sacrifice et qu'il pardonnait le péché du peuple d'Israël. Suite à ce sacrifice, tous les anciens, responsables religieux, posaient alors leurs mains sur l'autre bouc en confessant les péchés du peuple, puis le bouc était emmené dans le désert pour y errer. C'était le bouc émissaire, d'où l'expression encore courante de nos jours, le bouc émissaire, celui qu'on accuse de tous les maux.
Donc c'est donc de là d'où vient cette expression bouc émissaire. C'est très très intéressant. Et ensuite, que se passait-il?
Le pardon était accordé, alors le grand prêtre bénissait le peuple en prononçant le shalom alérem, et la foule se prosternait et adorait Dieu. On sonnait le shofar. Le shofar est une sorte de trompette faite avec une corne de bélier.
Le shalom aïrem, qu'est-ce que veut dire cette expression?
Alors ça veut dire que la paix soit avec vous.
Concrètement, comment se célèbre cette fête aujourd'hui? Jean-Didier, vous voulez peut-être nous en dire plus?
Oui, cette fête est toujours très célébrée en Israël et par tous les juifs du monde entier. Même s'il n'y a plus ni le temple, ni de grands prêtres, cette année, elle aura lieu ce mardi soir vers 19h15 jusqu'à mercredi soir 19h45. Mais avant ce jour, il y a une préparation de 10 jours de pénitence qui consiste en étude de la Torah, ce sont les 5 premiers livres de la Bible, de prières spécifiques, ainsi que des actes de charité. Cet ensemble indissociable s'appelle la Teshuvah. Une des idées principales, c'est de repartir à zéro. Plus qu'un rituel qui pourrait être accompli vite fait, les amis juifs prennent plusieurs jours pour réfléchir à leur comportement, vis-à-vis du Seigneur, mais aussi vis-à-vis des autres. Ai-je été injuste dans mes paroles et mes actes? Si oui, en quoi et comment faire pour ne plus reproduire celui-ci? Pour le dire autrement, ils expriment leurs fautes, les regrettent et promettent de ne plus recommencer. Les offenses au prochain doivent être réglées avant le jour du Kippour. La veille de ce grand jour, il y a la purification par le bain rituel avant de mettre des vêtements blancs. Puis il y a un repas familial. La maîtresse de maison l'introduit par l'allumage de 2 bougies et prononce la bénédiction. Comme chez les Juifs, le jour commence le soir et non le matin, Yom Kippour commence le soir vers 19h15 et se termine le lendemain à la tombée du jour.
Et que se passe-t-il pendant tout ce temps ?
C'est une journée de jeûne, principalement, pendant 25 heures. Certains passent d'ailleurs tout leur temps à la synagogue. Les hommes se couvrent du talit, c'est un châle de prière. On voit ça souvent dans les reportages télévisés. Jean Didier nous disait qu'il y avait la lecture de la Torah, mais il y a aussi des chants et des prières. Cela dit, aucune prière du type de demande « Seigneur, bénis-moi ». Comme ils se sont préparés depuis une dizaine de jours, du coup, ils vont plutôt s'attacher à chercher Dieu. Le prophète Ésaïe en parle d'ailleurs si bien et si simplement au chapitre 55. « Cherchez le Seigneur pendant qu'il est accessible, invoquez-le tandis qu'il est proche ». Chaque année à Kippour, le peuple s'attend, mais vraiment, vraiment à la grâce de l'Éternel et à son pardon. Il faut dire que le peuple juif est pétri de textes bibliques, lus et relus tellement régulièrement. Ils sont la base de leur foi, mais aussi de leur vie en société. Depuis leur plus jeune âge, ils lisent par exemple Exode 34, je vous le lis. « L'Éternel descendit dans la nuée, il se tint là, près de Moïse, et proclama son nom, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à la colère, riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour, dit-il, jusqu'à la millième génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. » Pas étonnant alors qu'il compte sur le pardon. À l'occasion du Kippour, le livre de Jonas est aussi lu. C'est un exemple de ce qui se passe lorsque l'on vient vers le Seigneur dans la repentance. Mais comme la Bible est remplie de textes qui parlent de pardon de Dieu, je ne peux pas faire ici tout l'inventaire.
Avant de poursuivre notre émission sur la confession, écoutons un chant de Martin Smith, « Me voici ». Restez avec nous, nous revenons dans quelques instants.
protestante sur RCF Anjou.
Suite de notre émission Parole protestante sur RCF Anjou en compagnie de Daniel, Jean Didier et de Bernard. Nous parlons de la confession. Nous avons parlé du jour du grand pardon chez les Juifs, mais quel est le rapport avec nous, les chrétiens ?
On ne peut parler du pardon que nous obtenons de Dieu sans au préalable parler de Jésus et du don de sa vie pour nous, pour que nous en bénéficions. Pour nous chrétiens, la fête de Kippour touche à l'essentiel du salut accordé en Jésus-Christ par son sacrifice unique et parfait, pour pardonner les péchés de l'humanité entière, donc plus uniquement d'un peuple. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, dit que « le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché ». Et l'apôtre Paul écrit aux Romains, au chapitre 6, que Jésus est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Je disais tout à l'heure que durant le Kippour, jour du grand pardon, le grand prêtre faisait l'expiation du péché du peuple. C'est-à-dire que le péché était couvert par le sang du bouc et que cet acte, il fallait le refaire chaque année. Le chapitre 9 du livre aux Hébreux parle justement de cette différence entre les sacrifices dans le temple et celui de Jésus. L'auteur insiste plusieurs fois pour dire que le sacrifice de Jésus est fait une seule fois, définitivement, pour le pardon de nos péchés, et qu'il n'y a donc pas de raison de refaire ce sacrifice.
Oui, je rebondis pour souligner une chose toute simple et pourtant très profonde qui pourrait passer inaperçue. Avec l'expiation par le sang du bouc, les fautes étaient couvertes, recouvertes, cachées on pourrait dire. Mais elles existaient toujours, alors qu'avec le sacrifice de Jésus, nos péchés sont complètement effacés, ils disparaissent.
C'est très, très intéressant tout ça.
Oui, c'est très juste ce que dit Jean Didier. La méconnaissance de la Bible, et en particulier de l'Ancien Testament, fait que les chrétiens sont souvent, trop souvent, ignorants des paroles prophétiques qui annoncent la venue de Jésus et son œuvre. Pour rejoindre Daniel et Jean Didier, je citerai la parole du prophète Jérémie que l'on retrouve à deux reprises dans la lettre aux Hébreux que citait Daniel, au chapitre 8 et aussi au chapitre 10. Il est écrit « Je serai indulgent pour leurs fautes et leurs péchés, je ne m'en souviendrai plus. » Pour illustrer cette vérité, j'imagine bien un ange écrire nos fautes à la craie sur un tableau noir, puis un autre ange les efface à la demande du Seigneur suite à notre demande de pardon.
On parle du pardon, c'est très très bien, mais tout à l'heure, citant le Kippour, vous disiez que les Juifs se préparaient durant 10 jours. Entre autres par la repentance et la confession, qu'ils prennent très au sérieux, si j'ai bien compris.
Oui, oui, ce n'est pas parce que Jésus est mort pour les péchés de l'humanité que nous n'avons plus besoin de nous repentir. La repentance et la confession sont des passages obligés pour obtenir le pardon. Ce sont deux notions indissociables du pardon, mais aussi de la réhabilitation.
Oui, certes, mais la repentance et la confession doivent se faire dans une attitude d'humilité. Je pense à cette parabole que nous donne Jésus dans Luc 18. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, fier de lui et imbu de sa propre justice, et l'autre, un percepteur, à qui il arrivait de tricher. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis !» « Je vous l'assure, dit Jésus, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. »
Mais alors parlons précisément de la confession. Que nous disent les textes bibliques ?
De nombreux textes de la Bible font référence au péché, puis à la confession et au pardon. Je vous en cite un dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament. Esdras 10, « Confessez maintenant vos faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. » Et dans Jacques 5, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Le terme grec traduit par « confesser » peut aussi vouloir dire reconnaître, quitter le péché. Il ne s'agit donc pas simplement d'avouer une faute ou un mauvais penchant, mais c'est en quelque sorte de dire « je reconnais ma faute, je l'avoue et je demande la force de ne plus tomber dedans ».
Pour illustrer ce que vous dites, je trouve que le roi David a une très belle attitude de confession dans le psaume 32. Je vous le cite. « Avant, je ne reconnaissais pas mes torts. Je me plaignais toute la journée et mes forces s'en allaient. Nuit et jour, ta main pesait sur moi et j'étais faible comme une plante brûlée par le soleil. Mais je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur. Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. C'est pourquoi tes amis fidèles doivent tous te prier quand ils découvrent leurs fautes. Je crois que nous pouvons ou devrions tous nous identifier à cette confession.
Oui, pour continuer à répondre à votre question sur la place de la repentance dans la Bible, je dirais elle est partout. Qui n'a pas dans ses oreilles les paroles de Jean le Baptiste qui haranguait la foule en disant « Repentez-vous !» Les mêmes paroles que dit l'apôtre Pierre à la foule qu'il écoutait le jour de la Pentecôte. Après son discours, celle-ci demandait « Mais que devons-nous faire ?» Et Pierre de répondre « Repentez-vous !»
Bernard, comment se passe concrètement la confession chez les protestants ?
Ah, je risque d'être un tout petit peu long, hein, mais... En fait, il n'est pas rare que l'on entende dire « Ah ben vous les protestants, vous n'avez pas de confession ». Eh ben si, mais le fond comme la forme n'ont rien de commun avec une pratique rituelle qui serait de dire « Je me confesse et automatiquement je suis pardonné ». Disons tout de suite que nous n'avons pas de confessionnal et puis que le pasteur n'est pas non plus le seul habilité à entendre la confession. Pour être pratique, lorsque les personnes arrivent dans notre église, elles ont de moins en moins d'instructions religieuses. Alors elles demandent un entretien pour en savoir plus, elles posent des questions, mais en même temps, souvent elles se livrent, c'est-à-dire qu'elles se confessent. Bon, parfois elles n'ont pas conscience que tel ou tel comportement a besoin d'une confession. Mais en général, il y a chez toutes les personnes la voix de la conscience qui agit en elle-même. Les personnes sont souvent sous un poids de culpabilité qui agit d'elle-même. Hein. Ce poids est là. Les personnes ne savent pas trop. Et moi j'appelle ça... on trouve cette idée de naturel dans le chapitre 1er de l'apôtre Paul aux Romains, à partir du verset 19, mais j'ai pas trop le temps de le lire. Nos contemporains savent par leur conscience si leur comportement est bien ou non, sans même que nous ayons à le leur dire. L'apôtre Jean, par exemple, écrit dans sa première lettre « Si notre cœur nous condamne, c'est que chacun de nous expérimente d'une manière ou d'une autre la culpabilité. Cela dit, le Seigneur ne souhaite pas que l'on s'enferme dans celle-ci. Et Jean continue son propos en écrivant « Si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. » Et si le problème des personnes est dû à une addiction, eh ben, nous allons les accompagner.
C'est-à-dire que les personnes ne viennent donc pas se confesser régulièrement?
Non, dans notre église, il ne viendrait à personne l'idée de venir périodiquement se confesser. La confession à quelqu'un est l'exception, mais elle existe quand même. Nous enseignons que le disciple de Jésus est assez mature pour venir seul devant le Seigneur demander pardon. Ça rejoint d'ailleurs un peu la parabole de Luc que citait Daniel tout à l'heure. Le pharisien, le pécheur, se trouvait seul devant Dieu. Cela dit, et je termine mon propos là-dessus, il y a des péchés qui obligent en quelque sorte la confession. Cela est dû au fait que même après avoir demandé pardon au Seigneur, le poids de la culpabilité reste présent. Les personnes n'arrivent pas à s'en défaire. Aumônier à la prison à Angers, durant 24 ans, j'en ai entendu des confessions. Et dans mon bureau aussi, et de toutes sortes. Certaines confessions ont vraiment un enjeu spirituel et pas seulement social. Il y a aussi la notion de se pardonner à soi-même, mais là, c'est un autre thème à développer.
Merci Bernard. On se retrouve dans une poignée de secondes pour continuer à parler de la confession.
parole protestante sur RCF Anjou.
Suite et dernière partie de notre émission « Parole protestante » sur RCF Anjou. Nous sommes en compagnie de Daniel, de Jean-Didier et de Bernard et nous parlons de la confession. Avant de développer la confession en église ou en groupe, Bernard, que pensez-vous de la notion du secret de confession ?
Ah, il y a incontestablement un secret de la confession. Ce que les personnes me confessent ne doit pas être divulgué. Maintenant, il y a des fautes qui demandent réparation vis-à-vis des victimes. Je pense par exemple à un détenu qui me confessait un autre viol. Je l'ai enjoint de se dénoncer, sinon j'allais le faire moi-même. Il l'a fait, et heureusement d'ailleurs pour lui, car au procès, il a bénéficié d'une certaine indulgence. Je pense aussi à une autre personne qui, à bout de force, avait étouffé son bébé avec le biberon, et il en est mort. Là aussi, il fallait que ça passe par la justice.
Merci Bernard. Pour conclure, pourrions-nous parler de la confession en église ou en groupe, Daniel ?
Oui, tout à l'heure, Jean-Didier nous a cité Esdras. Et c'est vrai que dans ce livre d'Esdras, nous trouvons une des plus belles confessions collectives. Je vous lis. « Tandis qu'Esdras, agenouillé en pleurs devant le temple, priait et demandait pardon à Dieu, un très grand nombre d'Israélites, hommes, femmes et enfants, s'étaient rassemblés autour de lui et ils pleuraient tous abondamment. Le peuple entier, à la suite d'Esdras, pleure sur son péché. C'est une vraie, une réelle repentance collective. Il y a là des hommes, des femmes et même des enfants. Ils ne font pas semblant, tous pleurent et la suite du texte nous montre que le peuple prend des décisions pour réparer leurs fautes. Ça fait écho au deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, où l'Éternel dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » À la maison de prière, nous prions souvent ensemble et demandons pardon à la place du peuple français, par exemple pour les violences de tout genre, les affaires de pédophilie, etc. Nous demandons pardon pour ceux qui persécutent les chrétiens dans tel ou tel pays. Nous le faisons aussi en Église. Par exemple, nous demandons pardon au Seigneur pour les divisions et la concurrence entre les églises dans la ville. Voilà, tout ça n'est pas limitatif. Comme le dit Dieu dans le livre des Chroniques que je viens de citer, nous souhaitons qu'il vienne guérir et bénir notre ville et notre pays.
Merci Daniel, nous n'avons fait qu'effleurer le sujet et déjà notre émission se termine. Jean-Didier, pourriez-vous terminer par une prière ?
Je vous propose la lecture des 5 premiers versets du psaume 130, qui est aussi lu à Kippour. Du fond de la détresse, je t'appelle, Éternel. Seigneur, écoute-moi, sois attentif à mes supplications. Ô Éternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te révère. Moi, je m'attends à l'Éternel, oui, je m'attends à lui, de tout mon être, j'ai foi en sa parole.
Merci Daniel, Jean-Didier, Bernard. Notre émission se termine et si je devais retenir 2 idées fortes de nos échanges, ce serait que la confession de nos fautes est un préalable au pardon et que le Seigneur est fidèle et juste pour les pardonner. Le mois prochain, nous parlerons du « pardonne-moi comme nous pardonnons ». Si vous avez une question concernant le contenu de cette émission, vous pouvez l'envoyer à l'adresse mail suivante églisebaptiste.angers@gmail.com. Vous retrouvez notre émission Parole protestante en podcast sur RCF Anjou. Et Bernard, je crois que vous avez une annonce à faire.
Oui, nous invitons tous nos auditeurs à venir à 2 événements importants qui se passent dans notre église protestante baptiste au 17 rue du Colombier à Angers. C'est ce samedi 12 octobre avec le chanteur suisse Philippe de Courroux. Il est engagé dans sa foi et c'est un ami du docteur Denis Mukwege. Vous savez, c'est le prix Nobel de la paix qui est réparateur des femmes. À 10h, il apporte une conférence sur le thème « La violence faite aux femmes ». Tous concernés. Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit, mais de comprendre et d'essayer d'apporter une aide. Et puis ce même Philippe de Courroux, le samedi soir à 19h, donnera un concert témoignage. Les 2 événements sont en libre participation aux frais.
Merci Bernard. Allez, bonne prière et à bientôt.